Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir Elisabeth.
Mohamed, votre story du jour.
Vendredi soir avait lieu le tournage d'un concert pour une émission de télé devant 15 000 Toulonnais. Une vingtaine de personnes ont été piquées avec une seringue. Étourdissement, vomissement, maux de tête pour certaines victimes. Un suspect a été arrêté. Je vous raconte tout dans la story ce soir.
Oui, c'est un phénomène qui s'étend, qui semble s'étendre un peu partout en France.
Et qui nous vient d'Angleterre.
On y revient dans votre story. Patrick, votre édito ce soir.
D'où vient le virus du Covid? 2 ans et demi après son apparition, son origine reste mystérieuse. Dans la presse américaine ces derniers mois, une série de révélations renforce l'hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse, il n'y a pas de preuve, ni dans un sens ni dans un autre, l'hypothèse d'une fuite ou d'un accident de laboratoire et des scientifiques américains impliqués dans des recherches en collaboration avec les Chinois sont visés, sont impliqués.
On en parle avec l'épidémiologiste Renaud Piarou dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5.
C'est beaucoup plus léger, on va revenir sur le jubilé de la reine Elisabeth. C'était évidemment le week-end dernier. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y avait un ovni? Certains parlent d'événement mondial, moi je dis événement intergalactique derrière la Royal Air Force, un objet volant non identifié.
Je l'ai pas vu.
A été sérieusement repéré.
Je vais vous montrer ça dans le 5 sur 5.
Alors ça m'intrigue. Dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Ce soir, ça m'avait échappé. Pierre, votre œil.
Moi, je reviens à des choses plus sérieuses. Zaï, 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 zaï. Une célèbre chanson de Dassin, une merveille de BD de Fab Caro. Et aujourd'hui, un bijou de spectacle de Nicolet et Bruno. Je vous y emmène tout à l'heure.
Vous y êtes allé samedi et vous en êtes revenu heureux. Et vous me faites partager ce coup de cœur.
Heureux et quasi hilar.
Ah ouais, ce coup de cœur, le coup de cœur de Pierre, c'est après 20h, nos invités. Après 20h, Élise Lucet pour un nouveau numéro de Cache Investigation ce soir sur France 2, une émission qui célèbre ses 10 ans d'existence. Et puis le rappeur Soul King de retour de sa tournée américaine. Forcément, vous avez entendu son dernier titre. Suavemente, besame. Et ben voilà, Suavemente, Soul King sera sur la scène de C'est à vous et à notre table autour du dîner préparé ce soir par l'un des deux chefs du restaurant Le Momen à Paris, c'est Louis Amen qui est ce soir dans nos cuisines. Bonsoir chef.
Ravi d'être avec vous.
Bienvenue aux commandes des cuisines de C'est à vous, de la pintade fermière ce soir.
Exactement, on va vous faire un filet de pintade fermière accompagné de gnocchi, donc tout fait maison, et de légumes de saison, petits pois, girolles, asperges, et une sauce au chorizo. Voilà.
Merci beaucoup chef, à tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Une femme mortellement touchée, un homme grièvement blessé par balle. Samedi à Paris, lors d'un contrôle de police, 3 policiers avaient été placés en garde à vue pour vérifier les conditions d'usage de leurs armes. Garde à vue levée cet après-midi sans poursuite à ce stade. Le débat sur la légitime défense a été relancé, aussitôt devenu très politique.
C'est à bord de cette voiture qu'une femme a été mortellement touchée par les tirs de policiers samedi, en plein cœur de Paris.
Alors que les agents patrouillaient à vélo dans cette rue, ils remarquent une voiture avec 4 personnes à bord. L'un d'eux serait sans ceinture. À leur approche, le véhicule prend la fuite, mais les fonctionnaires le rattrapent finalement près de cette intersection.
À ce moment-là, il nous a braqué direct. Sortez, coupez le contact, éteignez le moteur. On était tous dans la panique. Après, on a entendu que les coups de feu et les vitres qui pètent.
Le conducteur est blessé au niveau du thorax et la passagère avant est touchée mortellement à la tête. Les policiers affirment que le conducteur a redémarré et foncé sur l'équipage.
Le policier a tiré. Cette jeune femme est morte. De quoi était-elle coupable?
Une enquête judiciaire est en cours. Il y a également une enquête de l'IGPN. Mais voyez, on ne peut pas avoir, comme M. Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis de la police.
La seule chose dont on parle, c'est Mélenchon a dit « la police tue ».
La mise en cause permanente et des dirigeants comme Jean-Luc Mélenchon, sans preuve, sans aucune enquête des forces de l'ordre, contribue à une démotivation des forces de l'ordre qui fera que demain, nous ne trouverons plus non plus de policiers.
Aucun ne méritait la mort, quels que soient les délits qu'ils aient commis, parce que nous sommes dans un pays où la peine de mort n'existe pas.
Bonsoir Fabien Jobat.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de police. À vos côtés, Loïc Fanouillère, conseiller spécial du syndicat Alliance Police Nationale. Les trois policiers sont donc sortis de garde à vue cet après-midi, sans poursuite à ce stade. Mais une information judiciaire a été ouverte. Autrement dit, l'enquête se poursuit. C'est au tour du conducteur du véhicule d'être désormais en garde à vue. Les faits ne sont donc clairement pas établis. Et pourtant, dès samedi, votre syndicat apportait son soutien aux trois policiers impliqués dans cette affaire, un soutien sans que les faits soient établis.
Écoutez, là, je pense que dans cette affaire, comme dans les affaires similaires, nous sommes dans notre rôle. Nous représentons le personnel, nous sommes là pour soutenir les collègues parce qu'ils exercent quotidiennement dans des situations, dans des conditions extrêmement difficiles. Et si on n'est pas là pour les soutenir, pour les défendre a priori, qui les défend aujourd'hui sur les plateaux télé, dans les médias, il y a parfois un certain acharnement. Donc nous, on considère que les policiers travaillent en grande professionnalité, ils ont la loi, ils appliquent la loi. Ils n'utilisent leur arme qu'en dernier recours pour sauver leur vie, celle de leurs collègues ou celle d'un citoyen. Donc les propos qu'on entend aujourd'hui qui ont effectivement pris un caractère politique...
Ceux de Jean-Luc Mélenchon, auquel vous reprochez de dire que la police tue, ce que vous lui reprochez, c'est de conclure lui-même, de tirer lui-même les conclusions de cette enquête, ce que vous faites en soutenant a priori les policiers.
Ce personnage méprise la loi, il méprise la police, il méprise les policiers, et donc, accessoirement, il méprise Alliance. Pour ça, nous avons déposé plainte à plusieurs reprises contre lui. Je veux dire, c'est un peu triste qu'un homme politique comme lui, un personnage public, éprouve cette rancœur systématique envers les forces de l'ordre depuis des mois et des mois.
Est-ce qu'on est forcément anti-flic quand on soulève un débat sur l'utilisation et l'usage des armes par les forces de l'ordre ?
Bah écoutez, quand on dit depuis des années que les flics sont des barbares, qu'il faut supprimer les bacs, que la police tue, bon, je ne sais pas comment on peut prendre ça, mais effectivement, de la part d'un homme d'État ou qui se veut un homme d'État, je pense qu'il se discrédite par ses propos.
Il n'empêche, la question est légitime, Fabien Jobat. Est-ce qu'il est normal de perdre la vie, après un refus d'obtempérer des incidents qui se multiplient ces dernières années et dernières semaines en France ?
Ou ces dernières semaines, je ne sais pas, mais ces dernières années, assurément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que une nouvelle loi a été introduite en France en février 2017, qui a ajouté aux conditions très strictes et très anciennes d'ailleurs de la légitime défense des possibilités pour les policiers et les gendarmes, du reste, de tirer sur des véhicules en fuite, en assortissant ces tirs de conditions un peu compliquées. Quand vous prenez une décision, sur l'instant même, quand vous avez quelques fractions de secondes pour décider. En fait, la loi, elle dit, de manière un peu curieuse, si le policier suppose, raisonnablement, que l'individu qui prend la fuite, dans sa fuite, qui peut être au volant de son véhicule, qui peut être à pied, va poser un risque d'intégrité physique à des personnes, alors il peut faire usage de son arme, mais dans le respect de l'absolue nécessité et de la stricte proportionnalité. Donc en fait, c'est une loi un peu compliquée, très ambiguë, qui a en réalité été adoptée dans un moment de grande tension entre les policiers et le ministère. On était au moment de l'affaire de Viry-Châtillon, des policiers étaient blessés, étaient d'ailleurs à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et tout un mouvement de policiers dit en colère protestait contre le ministère, mais protestait aussi contre les syndicats, en disant, vous, syndicats représentatifs, vous travaillez main dans la main avec le ministère et vous ne faites rien pour nous. En gros, c'était à peu près le discours. Et donc, le ministère de l'Intérieur, à l'époque, avait besoin de donner un signe. On est avec vous, on vous aide. D'ailleurs, regardez, vous voulez qu'on amoindrisse les conditions de la légitime défense, on fait passer une loi, tout en disant dans la loi, attention, stricte proportionnalité, et donc, du coup, dans le semestre qui a suivi, l'IGPN a sonné, a tiré la sonnette d'alarme, hein, l'IGPN, l'inspection de la police, en disant, attention, ça tire énormément, plus 50% de tirs le premier semestre 2017 par rapport au premier semestre 2016. Ça s'est ensuite un peu calmé, mais on est à un niveau beaucoup plus haut aujourd'hui qu'on ne l'était avant cette loi. Et donc, vous voyez, c'est une loi un peu d'opportunité, prise dans un conflit politique entre des syndicats, des policiers contestataires le ministère. Et aujourd'hui, ça amène, à mon avis, les policiers dans des situations très embarrassées où ils doivent prendre, calculer trop de choses dans un temps trop court. Et ça amène plus de tirs et plus de drames que les années précédentes.
C'était sous le gouvernement Cazeneuve.
Absolument.
Vous pensez donc que ça a encouragé les policiers à faire usage de leurs armes. Et en même temps, on voit cette recrudescence de ces refus d'obtempérer. Un tous les 20 minutes en France, hein, c'est la statistique du ministère de l'Intérieur. Donc qu'est-ce qui provoque ce double mouvement, bon, c'est ça la question.
J'entends ce qu'on dit, mais ce n'est pas une nouvelle loi qui va faire que le collègue, on prend l'affaire de samedi, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a une enquête en cours, mais si le collègue à l'instant T est en train de voir qu'un de ses propres collègues est peut-être en train de se faire tuer, renverser, l'article de loi, c'est pas parce qu'il y a une loi qui a été votée en 2017, voilà, il est en danger lui ou son collègue ou un citoyen. Donc il a un quart de seconde pour réagir. Dans toutes les affaires, c'est comme ça. Donc on se rejoint sur cette notion-là. Mais c'est pas cette loi qui, d'un seul coup, a fait dire aux policiers « Bon, c'est bon, maintenant on peut tirer ». C'est un acte... le fait de sortir son arme pour un policier est déjà un acte difficile. Le fait de tirer est également traumatisant pour un policier.
Justement, les policiers n'ont-ils pas intérêt à ce que l'usage de leur arme soit réglementé de manière beaucoup plus précise ?
Absolument. Mais dans ce cas de figure-là, je suis désolé, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que le collègue...
Vous dites que ce n'était pas un refus d'obtempérer qui a justifié l'usage de l'arme, c'est le risque d'un homicide sur un agent de la force publique.
C'est le dernier recours. Le collègue, il tire parce que, encore une fois, sa propre vie est en danger. Il considère qu'à l'instant T, sa propre vie est en danger, ou celle d'un de ses collègues ou d'un citoyen.
Il tire aussi.
Il a un quart de seconde pour réagir.
Il tire aussi en plein Paris, dans un moment d'affluence. On est à 11h dans le quartier Barbès. Non, mais il y a évidemment des risques.
Évidemment.
On est quand même dans une situation où des organisations syndicales, en particulier la vôtre, Alliance, à partir de 2012, ont demandé, dans l'entre-deux-tours 2012, j'étais à la manifestation que vous aviez organisée à l'époque, donc je me souviens bien, a demandé un assouplissement des règles de la légitime défense. Mmh. Ce que vous venez de décrire, le collègue se sent immédiatement menacé, il doit réagir, c'est sa vie qui est en jeu, ça c'est la légitime défense. Ça a été vraiment le régime d'usage de l'arme depuis, on va dire, 2 siècles. Qu'est-ce qui fait qu'en 2017, on assouplit ces règles de la légitime défense? Je souscris en effet à ce que vous dites. Ça vient complexifier la situation du policier, ça vient donner des informations selon lesquelles le policier, dans le fond, peut faire usage de l'arme, même s'il n'est plus immédiatement en danger. À mon avis, le cadre de la légitime défense permet d'avoir moins de tirs, puisque les tirs ont augmenté. Je ne parle pas de l'affaire de samedi, moi je ne la connais pas. Mais les tirs, en tout cas, ont augmenté de quelques dizaines, 50, 70, 100 par an, par rapport à avant la loi de 2017. Donc, dans le cas d'espèce, j'en sais rien, mais quantitativement, il y a une rupture à partir de l'introduction de cette loi.
Vous conviendrez aussi que la société évolue assez défavorablement en matière de violence et d'irrespect également de la loi publique.
Je ne suis pas sûr, je vais vous donner un exemple strict là-dessus. Alors, il y a plus de refus d'obtempérer, en effet. Mais attention, la loi ne dit pas on tire sur les gens qui refusent d'obtempérer. La loi non plus. On tire sur les gens qui refusent d'obtempérer et qui posent un risque grave, etc. Bon. Combien de policiers étaient tués en service dans les années 80? 3 fois plus qu'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'à l'époque, les gens se baladaient avec du liquide sur eux, les banques étaient soumises à des braquages, beaucoup plus de criminalité violente armée était commise en pleine rue. Donc, vous voyez comme le débat se déplace. On parle d'usage d'armes à feu du côté des policiers dans des contextes de refus d'obtempérer. Auparavant, on avait des braqueurs qui se baladaient en pleine rue, en tout cas beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Le métier policier, si on retient simplement les homicides, hein, les morts en service, le métier policier est moins risqué, peut-être 3 fois moins risqué qu'il ne l'était il y a 40 ans.
Pierre, une question sur la formation.
Je voudrais juste évoquer effectivement l'angle de la formation. Les 3 policiers qui sont mis en cause, mais l'enquête est en cours, ont entre 25 et 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimerez l'un et l'autre que la formation des policiers en temps et au maniement des armes est suffisante et qu'ils sont suffisamment équipés dans leur formation pour cela?
L'information initiale est développée, là, elle va être augmentée. C'est vrai qu'au niveau du tir, ils ont un nombre de tirs obligatoires à effectuer par an. Après, c'est jamais assez, on pourrait faire mieux. Au niveau des techniques d'intervention, ils ont une formation très rigoureuse en école de police. Après, ce ne sont pas des jeunes policiers, ils ont à peu près entre 3 et 4 ans d'expérience chacun sur Paris. Donc à Paris, 3 à 4 ans d'expérience, c'est beaucoup. Mais encore une fois, nous la question qu'on pose, c'est il faut, dans ce cas de figure-là, les collègues ils doivent faire quoi ? C'est-à-dire, si le collègue il n'agit pas, son collègue policier, il a les jambes brisées au mieux. Quoi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on parle de texte de loi, mais nous, on parle de la réalité. Le collègue, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Aujourd'hui, quels sont les moyens qu'il a à sa disposition pour empêcher, en l'occurrence et en l'espèce, qu'un de ses collègues se fasse renverser, voire se fasse tuer. C'est ça que je veux dire.
Sur la formation, il y a un problème ancien sur l'impossibilité pour les policiers d'effectuer leurs tirs réglementaires. Et d'ailleurs, toutes les organisations syndicales au sein de la police s'en plaignent. La Cour des comptes même a remis un rapport en 2018. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est qu'on confie aux policiers des armes qui sont des armes automatiques, voire des fusils mitrailleurs. Hein. C'est le cas du fusil avec lequel un policier avait tiré. Tuant deux frères dans une voiture sur le Pont Neuf il y a un mois. Et la Cour des comptes elle-même avait dit, attention, plus la dangerosité des armes est élevée, plus il faut que les policiers soient formés, non seulement formés, mais rompus à l'usage de ces armes. Or, la police, on lui demande énormément aujourd'hui. On lui demande de faire des gardes statiques, on lui demande de faire de l'antiterrorisme, on veut du bleu dans la rue, on veut assurer de la présence partout. Et donc, on rogne sur la formation, et c'est problématique aujourd'hui, évidemment.
Pendant la campagne des présidentielles, on a entendu deux candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour, proposer d'instaurer la fameuse présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans ce genre d'affaires. C'est une solution que vous soutenez ?
C'est un axe d'inverser un peu la preuve de la charge. Parce qu'aujourd'hui, il y a une population qui est nuisible. Et vous avez des policiers qui sont là pour protéger le citoyen. Donc aujourd'hui, porter la charge uniquement sur le policier, pour nous, c'est assez aberrant. Après, il faut discuter largement là-dessus. C'est pas en 10 minutes qu'on pourrait travailler sur cette thématique-là. Mais c'est vrai que cette notion de légitime défense, encore une fois, le collègue sur le terrain, il a un quart de seconde pour réagir.
Fabien Jobard, votre regard sur la présomption de légitime défense ?
La présomption de légitime défense, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on part, c'est-à-dire l'autorité judiciaire, part du principe que lorsqu'il y a tir, le policier était en situation de légitime défense, et c'est à la victime, ou en tout cas aux proches de la victime, aux parties civiles, de faire la preuve que non, ce n'était pas le cas. Alors, vous savez, les affaires dans lesquelles des policiers sont impliqués, c'est des affaires compliquées, parce que les policiers travaillent avec la justice tous les jours. La justice est dépendante des policiers. Apporter, pour un simple citoyen, apporter la preuve, lui seul, que c'était le policier qui était en tort, c'est une, comme on dit en droit, c'est une charge souvent diabolique. Donc la présomption d'innocence, ça risque de légitime défense, ça risque de donner le même signal que cette loi du 28 février 2017. C'est-à-dire, en gros, vous ne serez pas poursuivi. Et ça, c'est un mauvais signal qui serait donné aux policiers dans les situations de tension qu'ils affrontent.
Merci beaucoup Loïc Fanouillard d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du syndicat Alliance Police Nationale. Fabien Jobard, je vous garde avec nous jusqu'à 19h50. Et tout de suite, c'est l'édito de Patrick Cohen. Questions et révélations sur l'origine du Covid. Le virus est-il né dans la nature ou dans un laboratoire? Et dans ce dernier cas, le laboratoire pourrait-il être américain?
Voilà, question ultra sensible. On parle d'une maladie à 6 millions de morts. Question qui vient d'être relancée par un universitaire de renom, l'économiste américain Jeffrey Sachs, qui n'a rien d'un complotiste. Il est proche de la gauche, il a conseillé Bernie Sanders. Il vient de publier dans la prestigieuse revue de l'Académie des sciences un appel à une enquête indépendante et transparente aux États-Unis.
Parce que les États-Unis auraient des choses à cacher sur le Covid ?
Alors d'abord, c'est le pays où la question de l'origine du virus a été la plus âprement débattue et combattue avec Donald Trump qui très vite, vous en souvenez, a accusé les Chinois de l'avoir fabriqué ou laissé s'échapper, et des scientifiques qui ont fortement réfuté cette hypothèse.
The idea that this virus escaped from a lab is just pure baloney. It's really a politicization of the origins of a pandemic.
Voilà, c'est une bêtise. L'homme que vous venez de voir est très important pour la suite de l'histoire. Peter Dajac se présente comme un chasseur de virus, spécialiste des zoonoses, ces maladies qui passent de l'animal à l'homme, comme le Covid, et il est l'initiateur d'une tribune signée par 25-26 scientifiques dans le Lancet dès le mois de février 2020 qui dit « La thèse d'un accident de laboratoire est absurde et complotiste, ce virus est bien d'origine naturelle ». Le débat est clos.
Ce qui n'a pas convaincu tout le monde.
Ce qui convainc de moins en moins. Il y a d'abord la coïncidence géographique, tout le monde l'a relevé à l'époque, Wuhan, le foyer de l'épidémie, abrite aussi un institut de virologie qui possède plus de 20 000 virus, la plus grande collection au monde, laboratoire dont la spécialité est justement de chasser les coronavirus de chauve-souris, de les étudier, de les manipuler pour comprendre le franchissement des barrières d'espèces entre l'animal et l'homme. Et puis il y a le virus lui-même, il est extraordinaire au sens propre, avec des capacités de reproduction, de transmission jamais vues dans toute l'histoire humaine.
Grâce notamment à sa protéine Spike.
Voilà, Spike, c'est la pointe du virus, c'est la clé d'entrée dans les cellules humaines qui permet au virus de se multiplier. Mais le plus du SARS-CoV-2, ce qui le rend particulièrement redoutable, c'est une séquence génétique qu'il est le seul à posséder dans sa famille, que les scientifiques appellent un site de clivage de furine. Mieux qu'une clé, c'est une sorte de passe-partout adapté à l'homme qui permet la fusion entre la membrane du virus et celle des cellules humaines, avec un atout génétique supplémentaire sur ce site furine, une séquence de 8 acides aminés identiques à la séquence des cellules de certaines cellules qui tapissent nos voies respiratoires, une sorte de virus parfait, comme il y a des crimes parfaits.
Est-ce que ça prouve qu'il a été fabriqué par l'homme ?
Non, ça ne prouve rien, ça peut être le fruit du hasard. Le site furine a pu apparaître de manière naturelle sur d'autres virus. Le problème, c'est qu'un virus naturel, on peut espérer le trouver dans la nature. Or là, rien de rien, les Chinois de Wuhan ont procédé à plus de 80 000 prélèvements sur toutes sortes d'animaux dans tout le pays, animaux sauvages, bétail, volailles. Ils n'ont retrouvé ni l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, ce n'est pas le pangolin, on le sait, ni le virus qui a déclenché l'épidémie, ni même son parent. Ils n'ont trouvé qu'un cousin au Laos à 1500 ou 2000 km de là. Deux ans et demi après, l'histoire de ce virus reste donc un mystère.
Ce qui ne prouve pas donc non plus qu'il a été fabriqué artificiellement.
Toujours pas, mais des fabrications de virus, il y en a eu, et par des Américains. C'est l'histoire que raconte Jeffrey Sachs, l'économiste, nommé à la tête du comité Covid de la revue The Lancet. Il s'est aperçu qu'il avait autour de lui, dans son comité, des scientifiques, des virologues qui collaboraient de longue date avec l'Institut de virologie de Wuhan, un partenariat de 120 millions de dollars, excusez du peu, financé par le gouvernement américain et par son virologue en chef, Anthony Fauci, et coordonné par Peter Dajac, le chasseur de virus qu'on a vu tout à l'heure, qui ne croit pas une fuite de labo.
We're a non-profit research organization that focuses on understanding where the pandemics come from, what's the risk of future pandemics, and can we get in between this pandemic and the next one and disrupt it and stop it.
In China, EcoHealth has worked for 15 years with the Wuhan Institute of Virology. Together, they've cataloged hundreds of bat viruses. Research that is critical right now.
Ces recherches critiquées, ce sont des modifications génétiques de virus qu'on appelle des gains de fonction et qui visent à rendre ces virus plus transmissibles, plus dangereux pour anticiper les futures pandémies et éventuellement aussi pour préparer les traitements ou des vaccins. Pratique très controversée qui a d'ailleurs été interdite pendant 3 ans aux États-Unis jusqu'en 2017. Il y a eu un moratoire. Mais c'est ainsi qu'au moins 2 virus chimériques, c'est-à-dire qui associent des parties de plusieurs virus, ont été créés avec les Chinois. Et surtout, révélation de ces derniers mois qui a accru le trouble, Dajac a signé en 2018 un projet de recherche adressé au ministère américain de la Défense que résume ainsi Jeffrey Sachs, l'économiste, parle de coup de théâtre, bombshell.
It says, we've collected a lot of virus strains of this kind of virus, and now we're going to test them for how infectious they are and For those that don't have a furin cleavage site, we're going to insert a furin cleavage site. Oh my God. In other words, the experiment that could have created this virus is described in the grant proposal. This is hair-raising.
Inséré dans un coronavirus de chauve-souris, un site de clivage de furine. Comme le dit Sachs, c'est pratiquement la recette du virus du Covid ou le mode d'emploi qui est inscrit dans ce projet de mars 2018 qui est signé Peter Dajac, dont Dajac n'a jamais fait mention avant que la presse ne le révèle il y a quelques mois grâce à la loi d'accès à l'information.
Que répondent les auteurs du projet ?
Qu'il n'a pas eu son financement, ce qui est vrai, et donc que ça ne s'est pas fait, ce qui reste à prouver. D'où la demande de Sachs que les bases de données, les cahiers de laboratoire soient déclassifiés et publiés aux États-Unis.
Et côté chinois ?
Opacité totale, la banque de données de l'Institut de Wuhan a été déconnectée d'Internet 3 mois avant l'apparition du Covid. Et vous vous souvenez sûrement de cette mission d'enquête de l'OMS il y a un peu plus d'un an qui n'a eu accès à rien. Vous savez qui était le seul Américain de la délégation ? Peter Dajac, encore lui, la conclusion de la mission, c'était l'hypothèse d'une fuite de laboratoire est extrêmement improbable, évidemment.
Que faut-il en conclure ?
On ne peut pas conclure. C'est ce que disent tous les scientifiques qui réclament la transparence sur les recherches menées sur les coronavirus en Chine et aux États-Unis, et en France notamment le virologue Étienne de Crolly. Ils ne disent pas qu'il y a eu accident de laboratoire, ils disent qu'il a pu avoir lieu. Ce qui est certain, c'est qu'un groupe de scientifiques impliqué dans ces recherches a tenté de manipuler l'opinion mondiale en faisant croire le contraire et que des recherches risquées de génie génétique sur des virus pathogènes ont été menées à Wuhan et en Caroline du Nord sous financement américain, financement fédéral, sans contrôle ni garantie de sécurité.
Bonsoir Renaud Piarot.
Bonsoir.
Épidémiologiste, chef du service de parasitologie, mycologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous participez également au podcast de France Culture Mécanique des épidémies. La saison 3 sur la grippe est en ligne depuis début juin. Ça fait froid dans le dos ces révélations. Même si effectivement rien n'est établi, en tout cas on a écarté trop tôt un possible accident de laboratoire.
Tout ce qui a été dit par Patrick Cohen est venu progressivement. Et donc, je confirme tout ce qui a été dit, y compris qu'on ne connaît toujours pas la cause. Ce qui fait froid dans le dos, effectivement, à mon sens, hein, c'est cet effort qui a été fait par un certain nombre de scientifiques, Peter Dajac à leur tête, pour disqualifier a priori l'hypothèse, non pas d'un complot ou quoi que ce soit, mais simplement d'un accident de laboratoire. Ce qui est dit aussi dans l'article de Jeffrey Sachs, c'est que ces travaux n'étaient pas faits dans les laboratoires du plus haut niveau de sécurité. Il y a différents types de laboratoires, on va dire P1, P2, P3, P4 ou BSL 1, 2, 3, 4. La France a construit un laboratoire P4 à Wuhan, c'est pas là que ça s'est passé. Ces recherches étaient faites dans des laboratoires de sécurité bien moins importants, en particulier des laboratoires dits P2.
Or, c'est du même risque, c'est du même niveau qu'un risque nucléaire quand on manipule des vaccins, même dans le but de faire des virus, même dans le but justement de faire des recherches.
Oui.
Il faut assurer la même sécurité que dans...
Alors, la différence par rapport à... Déjà, le fait de manipuler des pathogènes, est quelque chose qui nécessite de prendre des mesures de sécurité. Je rappelle qu'en France, en 2019-2021, 2 personnes sont décédées de la maladie de Creutzfeldt-Jakob pour avoir travaillé. Donc, c'est des personnes qui savaient qu'ils travaillaient dans des laboratoires de recherche sur ce sujet, qui faisaient très attention, et pourtant, elles se sont contaminées, elles en sont mortes. Et puis, il y a des gens qui sont morts de la peste, qui sont morts de la variole, qui sont morts de toutes les maladies possibles.
Le dernier mort de la variole, c'était un accident.
Le dernier mort de la variole, c'est en Angleterre. Et c'est un accident. Donc, il y a déjà manipulé un agent pathogène en laboratoire, c'est dangereux. Mais là, la différence, c'est pas tellement dangereux pour la personne qui va le manipuler, c'est que si on démarre une chaîne de contamination, on peut créer une pandémie et avoir des millions de morts.
Est-ce que, oui.
ça, ça veut dire que le débat doit être relancé sur les manipulations. Ce type de manipulation doit être terriblement encadré. Quand je dis terriblement encadré, la première chose à laquelle on doit penser, c'est est-ce que c'est nécessaire de faire ça pour faire avancer la recherche, ou est-ce que d'autres techniques peuvent être utilisées ne prenant pas ce risque-là ?
Parce qu'on va de plus en plus loin dans les manipulations pour augmenter notre savoir et que la concurrence entre les laboratoires a peut-être encore accentué les risques ?
Oui. Le fait de vouloir faire une belle publication, donc avoir amené quelque chose d'extrêmement convaincant, va pousser un certain nombre de chercheurs à aller plus loin, peut-être à prendre un peu plus de risques, parce que travailler dans des conditions... Wuhan avait un laboratoire de très haute sécurité, mais ça prend énormément de temps d'y travailler. Peut-être travailler dans des conditions moins sécurisées permet de gagner du temps. Mais je rappelle qu'on n'a pas la preuve que ce soit parti de ces laboratoires. Simplement,
il faut pouvoir se poser la question.
Cette cause potentielle n'a pas été investiguée. Et ça, on a la preuve qu'il y a eu des manipulations pour qu'il n'y ait pas cette investigation. Et deuxièmement, face au risque pandémique, face aux manipulations qui se font sur ce virus-là, sur d'autres virus, il faut vraiment maintenant se poser la question de ce qu'on appelle les gains de fonction, qui changent un virus donné, par exemple en l'augmentant sa transmissibilité ou sa pathogénicité, ou en changeant son mode de transmission. On peut prendre un virus de la grippe aviaire, par exemple, et en l'inoculant à des furets et en reprenant cette manip de manière cyclique, on finit par créer un virus qui soit transmissible entre les furets ressemblant plus à l'homme que les oiseaux, et donc on prend un risque de faire d'un virus de grippe aviaire un virus de grippe humaine. C'est des manipulations qui ont été faites et qui ont lancé un débat chez les scientifiques, mais ce débat est resté dans la sphère des scientifiques. Peut-être il est temps de le faire sortir.
Il faut le répéter, il n'y a pas de preuve, ni pour une hypothèse, ni pour une autre, aujourd'hui, mais vous m'avez dit que ce qui vous a troublé, c'est effectivement le fait qu'on ne retrouve pas dans la nature, dans aucun réservoir animal connu pour l'instant, la trace du virus du Covid.
Je vais prendre l'exemple du sida. Le sida, d'abord, il y a eu plusieurs virus du sida. Il y en a eu 13 déjà qui sont passés chez l'homme depuis les grands singes. 13 virus ou depuis les singes, plus généralement pour HIV2, et 4 viennent des grands singes. Un seul a donné un virus pandémique. Sur ce virus pandémique, qui s'appelle HIV1, M, comme le principal, main, ce virus pandémique, on sait maintenant où il est passé chez l'homme, c'est plutôt dans le sud-est du Cameroun, à partir de chimpanzés, vers 1920. Donc on peut retrouver des informations très précises, et ça se passe en pleine forêt africaine, ensuite on peut comprendre ce qui s'est passé derrière. Là, on est en Chine, on est au 21e siècle, et on n'arriverait pas à trouver... L'animal qui a été mis en avant, Peter Daszak a dit, c'est forcément ou c'est très probablement une cause animale, un animal qui a fait l'intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Là, on n'arriverait pas à le trouver dans un contexte actuel. C'est vrai que c'est troublant aussi.
Une autre maladie fait depuis quelques jours la une des médias, la variole du singe. 51 cas pour l'instant ont été détectés en France, mais l'inquiétude grandit à l'étranger. Un vétérinaire l'ayant attrapé en 2003 a décrit ses symptômes à la chaîne anglaise Sky News.
This is the scar upon my thumb from the monkeypox lesion that I had there in 2003. I was feeling like I had a very bad bout of the flu. Nausea, dizziness, fever, sweats, fatigue. I wanted to lay down, very tired.
L'Organisation mondiale de la santé a indiqué ces jours derniers que les plus de 1000 cas actuellement recensés dans le monde ne pourraient être le sommet de l'iceberg. C'est donc quoi, une épidémie qu'on ne voit pas ?
C'est une épidémie qu'on voit. On ne voit toujours qu'une partie d'une épidémie. Les cas qui ont été diagnostiqués, confirmés. Hein, on était, je regardais ce matin, je pense qu'ils ont donné un résultat supérieur dans la journée, mais on était à 750 à peu près, 780 cas confirmés ce matin, mais ça datait déjà d'il y a 3-4 jours. Ce qu'on connaît, c'est les cas confirmés. Dès lors qu'on met l'accent sur une maladie, on voit plus de cas confirmés. Donc, les premiers jours, il y a une augmentation normale. Après, parce qu'il y ait au fait qu'on soit averti et qu'on commence à la chercher plus souvent. Après, eh bien, il va falloir surveiller ça de très près, parce que manifestement, effectivement, ce virus a changé son mode de propagation. Il était connu, moi je travaille beaucoup en République démocratique du Congo, c'est une maladie qui est connue, qui est sous surveillance. L'année dernière, il y a eu un peu plus de 1000 et quelques cas, quelques dizaines de décès. Donc elle est surveillée, elle est connue. Mais elle était connue comme une maladie qu'on attrapait plutôt en zone rurale, au contact, pas tellement avec les singes, mais plutôt des rongeurs, des sortes d'écureuils en particulier. Et là, on voit une maladie qui émerge comme une maladie plutôt sexuellement transmissible, dans les milieux gays, dans différents pays. Il y a d'autres modes de contamination. Tout le monde, le fait d'avoir cette variole du singe qui n'est pas une variole du singe, n'implique pas ce type de contact, mais c'est quand même le mode de contamination le plus fréquent. Voilà ce qu'on en sait. Maintenant, ce que ça va devenir, est-ce que ça va s'installer chez l'homme ou pas, c'est beaucoup trop tôt pour le dire.
Il existe des traitements et des vaccins contre cette variole, pour conclure ?
Alors, les traitements, je crois qu'il faut qu'on retravaille dessus, mais pour les vaccins, le vaccin de la variole a une très bonne efficacité. Mais ce n'est pas un vaccin facile à donner et on n'a pas envie de repartir vers un processus d'éradication comme le processus d'éradication de la variole, qui était d'ailleurs un très grand succès de l'OMS dans les années 70.
Merci beaucoup, professeur Piaou, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous, le temps de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous nous parlez ce soir d'un phénomène qui inquiète le monde de la nuit.
Oui, c'était une soirée attendue par toute la ville de Toulon. Vendredi dernier, 15 000 Toulonnais assistaient au tournage de la chanson de l'année sur TF1. Leïna Nomari était dans le public. On l'a joint cet après-midi. Elle témoigne après avoir été piquée lors d'un mouvement de foule.
À ce moment-là, j'ai un petit blackout, je ne m'en souviens pas vraiment de tout, mais je sais qu'en quelques secondes, je vois flou, j'ai les jambes qui tremblent, je ne me sens pas bien, et je regarde mon ami, je lui dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui dis, là, je vais tomber, je sens que j'ai des remontées acides, ça ne va pas, je vomis, voilà, ça faisait comme de la mousse, c'était très très bizarre. Moi un peu en état de choc parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Et le lendemain matin, j'ai remarqué que j'avais un point sur la cuisse.
Un suspect âgé de 20 ans a été arrêté et mis en examen. Il conteste les faits. 21 victimes, dont 19 femmes, expliquent avoir été piquées par ce suspect. Certaines l'ont formellement reconnu. Dans cette affaire, comme la plupart en France, plusieurs hypothèses existent sur ces piqûres. Injection d'un produit totalement inconnu qui disparaît rapidement. Piqûre avec un accessoire qui provoque des réactions stressantes. Les enquêtes se poursuivent car il faut plusieurs semaines avant d'identifier le contenu des seringues. À 180 km de Toulon, avait lieu au même moment la Feria de Nîmes. 51 cas de piqûres ont été recensés. C'est le docteur Ben Slima qui a reçu la plupart des victimes à l'Institut médico-légal. Avec certains de ses confrères, il a pu partager des examens toxicologiques.
L'inquiétude, elle est surtout au niveau de la psychose qu'elle peut créer, même si aujourd'hui, je répète, on n'a pas vraiment de cas avérés de produits nuisibles constatés médico-légalement. Ce qui m'a frappé en tant que médecin légiste et en tant que médecin soignant, c'est surtout l'aspect psychologique parce que, bien entendu, on sait très bien qu'une piqûre, elle peut déboucher sur des pathologies infectieuses graves. On a un sentiment de peur qui est réel et qui doit être pris en charge assez rapidement. La Feria a duré, par exemple, à Nîmes 5 jours, donc c'est une manifestation de masse, et bien sûr. On a commencé par avoir 2 ou 3 cas, le lendemain 10, le surlendemain 20, et ça monte de façon exponentielle.
Depuis plusieurs mois, les témoignages de personnes piquées à leur insu, en boîte de nuit ou lors de concerts se multiplient. Ce qui intrigue la police, c'est que dans la quasi-totalité des affaires, il n'y a aucun fait connexe, aucun motif. Pas de vol, pas d'agression, ni de viol. Chaque semaine, des dizaines de témoignages de victimes sont diffusés sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou Instagram. C'est au Royaume-Uni qu'on a vu arriver ce fléau des piqûres.
This is the photo of my hand. I just do feel completely violated and vulnerable. I just don't know their intent. Obviously, immediately you think of sexual assault.
So I woke up and obviously I had no memory, and it kind of confused me a bit because that doesn't happen to me with whatever, how much I drink. I just always remember things, and I found it a bit odd, but then I did actually find a pinprick in my leg.
I went outside to get some air and my wrist started hurting, and I looked down at my wrist and I had a puncture mark in my wrist. So that was when it kind of added up that something had happened, because I was not in a good state at all.
Au-delà des malaises, du stress et de la peur, pour plusieurs femmes en France, après les empoisonnements au GHB, dans les verres, c'est une nouvelle menace. Certaines victimes craignent désormais de ressortir dans les lieux de fête.
Même avant toutes ces histoires, on avait beaucoup de prévention par rapport au GHB dans les verres. Donc déjà, juste pour ça, j'avais du mal à sortir. Si j'avais quelque chose à boire, je le buvais avant les soirées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je sors, je ne bois pas. Ou si je bois, je garde toujours la main sur le verre. Et avec ces histoires de piqûres, je suis encore plus traumatisée. C'est un traumatisme un peu quand même. C'est... Pour moi, j'ai cru qu'à cette soirée-là, il y allait avoir des décès. C'est assez traumatisant. Ouais.
C'est très important de le rappeler. Si vous êtes victime en boîte de nuit ou en soirée de piqûres, il faut se rendre directement à l'hôpital pour subir des analyses et bénéficier de traitements préventifs au VIH et à l'hépatite B et C. Tous ces éléments permettront de faire avancer les enquêtes en France aujourd'hui, qui sont sans motif, en tout cas sans raison expliquée. Pardon.
Merci Mohamed. Tout de suite, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Salut.
Bonsoir Mathieu.
Direction tout de suite les Royaumes-Unis avec l'affaire du Partygate. Boris Johnson s'en sort à nouveau.
Oui, Boris Johnson qui pensait avoir échappé aux polémiques avec d'abord la guerre en Ukraine, mais aussi l'organisation et le jubilé de la reine. Vous le voyez là en habit de lumière avec son épouse coiffée d'une soucoupe volante. C'est un teasing,
c'est ça,
le jubilé de la reine. On va y revenir. D'abord, les affaires. Le Partygate, pour résumer, scandale qui secoue la majorité depuis de longs mois. La révélation de multiples soirées alcoolisées autour du Premier ministre, parfois dans les locaux même du 10 Downing Street, ici par exemple dans ses jardins, et ce en pleine pandémie, alors que les Anglais étaient privés de se retrouver, privés de faire la fête justement. Boris Johnson s'était excusé, ça n'a pas suffi. Des enquêtes étaient lancées, à l'issue desquelles le Premier ministre avait écopé d'une amende. C'est inédit, ça n'a pas suffi non plus. Un vote de défiance était organisé hier au sein même du Parti conservateur. C'est sa place qui était en jeu, la suite de sa carrière politique même. Sur 359 députés, 211 l'ont soutenu et 148 ont voté contre.
And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence.
Voilà Boris Johnson sauvé. Pour quelques mois, une autre enquête est en cours avec une autre question, savoir si le Premier ministre a menti devant le Parlement. Et ce, alors que les révélations se poursuivent, de la même teneur, cette photo par exemple, où l'on voit Boris Johnson porter un toast, un pot de départ en novembre 2020. Les visages des autres participants sont floutés. Et normalement, sur la photo en bas, on a dû la recouper, on voyait des bouteilles d'alcool. Il y en avait au moins 5 ou 6 de mémoire. Hier, après le résultat du vote, lors duquel un tiers de son camp a voté contre lui, Boris Johnson s'est adressé aux Anglais.
Grateful for the support they've given me. And of course, I understand that what we need to do now is come together as a government, as a party, and that is exactly what we can now do. And what this gives us is the opportunity to put behind us all the stuff that I know the media have quite properly wanted to focus on for a very long time, and to do our job, which is to focus on the stuff that I think the public actually want us to be talking about.
Il n'a manqué que 32 voix au fondeur du Parti conservateur pour espérer déboulonner Boris Johnson.
On reste donc au Royaume-Uni avec quelques images du jubilé.
J'avais annoncé un teasing sur le jubilé, mais je vous ai parlé de soucoupe volante aussi. Est-ce qu'on a vu un ovni en plein jubilé de la reine? Certains en sont persuadés, gonflés d'orgueil patriotique. L'événement n'était ni national ni international, mais intergalactique évidemment. Lors du passage des avions de la Royal Air Force, ce petit objet non identifié, blanc, que vous voyez, on a bouclé l'image pour que vous le voyez bien.
Un
petit truc blanc qui passe. Évidemment que c'est un oiseau. Ils ont voulu marquer l'événement
c'est
de leur présence,
oiseau,
dit un
alors.
Anglais dans les les colonnes du Independent où l'on lit aussi qu'il s'agit...
Il allait très vite.
D'observateurs. Alors, c'est une histoire d'angle, en réalité. C'est une histoire d'angle et de caméra qui bouge aussi vite que les avions, pour être précis. Certains parlaient d'observateurs silencieux qui ont souhaité rendre hommage à la reine. Les experts sont formels, il s'agit d'un oiseau, ça se voit bien sur d'autres angles. Comme s'il fallait des ovnis, en plus de tout le faste, de tous les événements de ce jubilé de 70 ans de règne d'Elisabeth II, des défilés, des déjeuners collectifs, des concerts. Et cet objet volant derrière les avions de chasse avait pourtant bien attiré l'attention au balcon royal. Sur la séquence, on voyait le prince Louis de Cambridge lever le doigt, montrer à sa grand-mère ou à sa maman, on ne sait pas trop. C'est le troisième enfant de William et Kate, enfant de 4 ans, qui avait parfois du mal à tenir son standing royal. J'en parle parce que clairement, cet enfant, c'est la révélation de 4 jours de festivités.
Oui, il est punk.
Moi, je l'aime beaucoup, ce petit garçon.
Et la reine dans tout ça.
Oui, les mauvaises langues diront qu'elle a surtout brillé par ses absences, mais on sait qu'elle est diminuée, fatiguée, elle a manqué de nombreuses célébrations, elle a 96 ans, difficile de le lui reprocher. Mais Elisabeth a quand même fait bonne figure. Dès le premier jour, on l'avait vue. Et puis, lors d'une apparition surprise au balcon de Buckingham, au dernier jour des festivités.
This is the moment. This is the moment. When London, when the UK, when the Commonwealth... says thank you to Her Majesty, who is out on the balcony of Buckingham Palace.
La reine, et c'est plus inattendu, que l'on a vu aussi dans un sketch, oui, un sketch décalé, très british, avec la reine Elisabeth II en personne, vidéo diffusée juste avant le concert du jubilé. On voit la reine en compagnie de l'ours Paddington.
Tea?
Oh, yes, please. Oh, terribly sorry. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies.
So do I. I keep mine in here.
Très, très anglais, vidéo enregistrée il y a quelques mois. Il faut préciser que nous, on connaît l'ours Paddington pour les quelques films qu'il y a eu, mais l'ours Paddington, c'est un héros de la littérature enfantine britannique. Et puis enfin, la reine apparue aussi, mais beaucoup plus jeune, plus forte que Tupac, Abba ou Michael Jackson, la reine en hologramme. On l'a vue dans un carrosse, la version d'elle, à 27 ans, en 1953. Elle se rendait alors à son couronnement. Le carrosse vaut le coup d'œil aussi, hein. Ce carrosse qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans, carrosse en bois recouvert d'une fine couche d'or, le Golden State Coach, c'est son nom. Il date de 1762.
Et il marche toujours.
Il fonctionne très bien.
Comme la reine. On quitte la monarchie pour la République. À 5 jours du vote, les élections législatives.
Oui, on est à 5 jours du scrutin pour la métropole et les Outre-mer, mais les Français de l'étranger ont déjà voté pour le premier tour. Dans la plupart des 11 circonscriptions, la majorité présidentielle affrontera des candidats NUPES au second tour. À noter l'élimination de Manuel Valls dès le premier tour, donc dans la circonscription des Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. L'ancien Premier ministre arrivé troisième derrière le candidat NUPES et le sortant Stéphane Vojetta, dissident de La République En Marche. Particulièrement moqué depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, Manuel Valls a posté « Adieu Twitter » sur sa page avant de désactiver son compte. Un résultat qui permet à d'autres dissidents de se sentir pousser des ailes. Ils sont dissidents de la majorité, mais parfois aussi dissidents socialistes contre l'accord NUPES. On avait déjà parlé ici de Lamia El-Arrage dans le 20e arrondissement de Paris, candidate socialiste, sortante de la circonscription, soutenue par Lionel Jospin. Ce n'est pas un sujet pour la candidate NUPES, Danielle Simonet.
Vous savez, c'est assez anecdotique, hein, parce que Lamia El-Arrage, en fait, était au départ totalement anti-Mélenchon, contre l'accord. Puis quand elle voit que l'accord se fait et que ça serait sa seule chance de pouvoir se faire réélire, elle est pour l'accord. Et quand elle voit que ce n'est pas elle qui est désignée, là, je voyais son article dans Le Point. Bon, elle prépare le prochain congrès du Parti Socialiste, voilà. Elle est là avec Cazeneuve, qui la soutient. Cazeneuve qui a quitté le Parti Socialiste parce qu'il est en désaccord avec, justement, cette stratégie d'alliance historique de la NUP. Bon, ben voilà qu'elle prépare son congrès.
Tandis qu'à l'image, vous voyez la liste de tous les candidats de cette 15e circonscription de Paris. Louis Amar et Camille Schmitt en ont rencontré certains, loin derrière l'affrontement des gauches, dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 46% de suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle.
Je vous dis une chose, c'est qu'on ne me parle pas de cette bataille. Moi, on me parle du quotidien des habitants. Et c'est sur ça que moi, je parle, que j'agis. Et les habitants, franchement, sont en dehors de ça. Hein. Enfin, il faut vraiment être dans le landerneau médiatique et politique pour vraiment se focaliser là-dessus.
C'est vrai qu'on a eu une bataille médiatique entre deux candidates qui revendiquaient leur droit sur la circonscription. Je crois qu'aujourd'hui, les habitants, en tout cas moi, c'est mon ressenti sur le terrain, comprennent quand même que la circonscription n'appartient à personne.
Puisqu'on parle des élections législatives, quelques ratés à noter à l'image. L'affiche de l'ancienne ministre Emmanuelle Wargon, candidate de la majorité présidentielle dans le Val-de-Marne. Comme beaucoup de candidats, elle a utilisé des images un peu prétexte pour son affiche à l'arrière-plan. Grossière erreur, des petits malins sont-ils du Val-de-Marne ou de la région lyonnaise, je ne sais pas. Des petits malins ont remarqué qu'elle fait campagne dans le 94 avec une photo de Lyon derrière elle. On reconnaît la basilique Notre-Dame de Fourvière sur la photo derrière la candidate et le président. Autre bug de la campagne, plus grave, Léon Thébault, à 21 ans seulement, il est candidat NUPES dans la première circonscription de l'Aveyron. Il est jeune, regardez-le, l'extrême droite vient d'exhumer une vidéo de lui en soirée. On le voit sniffer une poudre blanche sur sa main, comme on prendrait de la cocaïne. Lui s'est défendu en parlant d'une vidéo ancienne sur laquelle il ne s'agissait pas de drogue, mais d'un Doliprane écrasé.
Ah oui.
Je cite, le genre de choses stupides que l'on peut faire lorsqu'on est adolescent en soirée. Beaucoup plus étrange encore, parfois, on ne sait plus si on est dans la chronique politique ou dans « Faites entrer l'accusé ». Regardez d'abord ces archives, elles sont vieilles d'une vingtaine d'années.
Ursus a disparu dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier. Au début de cette semaine, une jambe a été retrouvée ici, dans les grilles de l'usine hydroélectrique du Bazacle à Toulouse. Ce membre pourrait appartenir à André d'Ursus.
Les accusés, après avoir contesté en bloc et la légalité des cours d'assises et celle de leurs jurés, se sont attaqués aujourd'hui à la façon dont les juges ont instruit leur affaire.
Je veux démontrer, d'une part, par toutes les exceptions, que cette cour n'existe pas, que tout ceci n'est qu'un théâtre de guignol et qu'on a déjà décidé de nous assassiner juridiquement, mais de nous assassiner quand même. Parce que si on nous met perpétuité sur un élément où il n'y a rien, sur des éléments tout fabriqués, moi je considère que c'est un assassinat.
Pourquoi reparler de cette affaire? Parce que cet homme, Germain Gueff, est connu comme le dépeceur de Montauban. Il vient de passer 24 ans en prison, près de la moitié de sa vie. Eh bien, il est candidat dans la deuxième circonscription du Vaucluse. 25 ans de prison, mais pas de peine d'inéligibilité. C'est cet homme que vous voyez qui se présente pour, je cite, le PQ, le parti des Kidam. Étrange personnage qui a épousé un tueur en série en prison, avec Dieudonné et le terroriste Carlos comme témoin de mariage. Couple qui avait été jusqu'à revendiquer la paternité de la fille de Rachida Dati. Ce qui lui avait valu une condamnation supplémentaire pour outrage.
Voilà, et on rappelle que pour être candidat aux législatives, il n'y a pas besoin de parrainage comme pour les présidentielles, voilà, qui évite certaines candidatures
parfaites. Deuxième circonscription. J'ai oublié, de du Vaucluse, pardon.
On termine par un record, vous avez 40 secondes, Mathieu.
On va sourire, le record du monde de la plus longue chenille humaine. Là aussi, c'est exactement ce que vous pensez. 2,8 km de parcours en centre-ville, avec la musique bien sûr. 1336 participants, le record précédent était à 390. Hein. Il est pulvérisé. En attendant l'homologation du Guinness Book des records, le maire a déjà promis d'installer une plaque commémorative de l'événement à l'entrée de la ville, à Saint-Brieuc. Donc.
Mais moi, depuis que je sais qu'il y a eu une chenille pour le mariage d'Elisabeth II à Buckingham Palace, menée par le roi George VI, et ben voilà, il n'y a plus rien à dire sur les chenilles. Bravo pour ce record.
Record de la chenille, record du monde à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor.
Bravo, merci beaucoup Mathieu, merci professeur Renaud Pierroux d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS. Dans un instant, Élise Lucet est notre invitée du dîner à ses côtés, Véronique Blanc, pour les 10 ans de Cache Investigation et le numéro ce soir diffusé sur France 2. Et le chanteur Soul King qui revient d'une tournée aux États-Unis et il sera sur la scène de C'est à vous. A tout de suite, on vous attend.